France Musique.
Émilie Munera, les grands entretiens. France Musique.
Je suis Alexandre Tarot, pianiste, insomniaque. Et je n'ai pas d'âge.
Alexandre Tarot, on a une petite surprise pour vous, pour cette dernière émission. Un de vos amis, Jean-Guyenne Queyras, vous a laissé un message.
Bonjour Alexandre, c'est Jean-Guyenne. Je voulais te demander si tu pouvais nous raconter ce qui s'était passé il y a quelques années, après nos 4 heures d'interview d'affilée au Japon, interview qu'on a eue ensemble. Je t'embrasse.
Je pense qu'il parle de Taïwan, parce qu'on a fait en effet... 4 ou 5 heures d'interview, et puis tout d'un coup, il y a une chaîne de télévision taïwanaise qui veut nous interviewer, qui nous demande de dire quelques mots en chinois. Et Jean-Guyenne, c'est quelqu'un qui a une énergie phénoménale, mais aussi quelqu'un avec qui je ris beaucoup, et quand on commence à avoir un fou rire, c'est dévastateur. Et là, on était très fatigués. Le décalage horaire, plus tous ces interviews où on a l'impression qu'on dit la même chose. Et quand on donne des interviews partagées à deux musiciens, on ne sait plus qui a dit quoi. Et en parlant, on ne se souvient plus si on a dit cette phrase il y a 5 minutes ou il y a 5 heures. Et donc, voilà, la fatigue aidant, on essaye de travailler nos phrases en chinois. Les moteurs se mettent en route. Et l'intervieweur, qui parlait d'ailleurs français, nous demande de dire une phrase en chinois. Et je crois que Jean-Guyenne a pu dire sa phrase, mais qu'on riait tellement, et j'ai commencé à dire ma phrase, qui devait commencer par « ni hao », et j'ai tellement éclaté de rire que je suis tombé de ma chaise. Alors, il n'y a rien de dramatique, sauf que je leur ai dit « mais non, surtout, on recommence, et puis vous n'utilisez pas ça ». Et évidemment, ils ont mis ça sur YouTube, d'ailleurs on doit toujours retrouver cette... Mais c'est très amusant.
Monsieur Alexandre Tarot, Maho, Tati Xinjia, Monsieur Jean... excusez-moi.
Jean-Guyenne
Queyras. Guyenne Queyras, 他跟大家来打个招呼好吗?
大家好, 你好吗?
Jean-Guyenne Queyras, c'est votre partenaire privilégié, le seul avec qui vous pouvez jouer tout le temps, vous retrouver. Comment s'est monté votre duo? Alors, c'est pas vraiment un duo, mais en tout cas, cette affinité entre vous deux.
Parce qu'on se connaît depuis longtemps, et puis je pense qu'on est complémentaires. On parlait plutôt de cette manière que j'ai trouvée pour la préparation de mes concerts, c'est-à-dire finalement être très calme et me replier, me protéger du monde. Lui, c'est tout à fait le contraire. Dans la journée d'un concert, mais il va donner plusieurs masterclass, avoir des rendez-vous avec plein de gens, il va passer plein de coups de téléphone, parfois un quart d'heure avant de monter sur scène. Moi, j'en suis totalement incapable. Et puis au moment d'entrer sur scène. Il a une concentration, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. Et c'est un soleil, c'est une, il y a une énergie qui sort de lui et qui m'inspire toujours autant maintenant, je pense que ça fait 18 ans, quelque chose comme ça, qu'on joue ensemble. À chaque concert, il m'apprend quelque chose. Et ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui le seul musicien, mais j'ai eu la chance de jouer avec d'autres merveilleux musiciens. Aujourd'hui, j'ai donné plus de place au récital et au concerto avec orchestre. Alors, voilà, il reste peu de temps pour la musique de chambre. Et ce temps-là, je lui donne parce que je trouve qu'à chaque concert, c'est des moments exceptionnels.
Et vous disiez à Nicolas Souton dans votre livre Piano Intime, peu importe le niveau, l'important est d'aimer le musicien face à vous.
Oh oui. On peut jouer avec n'importe qui, au fond. On peut jouer avec n'importe qui. Je m'amuse parfois d'être au piano comme ça et de mettre une personne qui est avec moi, avec qui je parle, je lui dis, tu te mets au piano, alors la personne est totalement effrayée, je lui montre la note à jouer, puis je fais un accompagnement et on joue à quatre mains, je lui montre une autre note à jouer, ainsi de suite, et il va suivre les indications, il va faire une petite mélodie, et voilà, et on va jouer ensemble. C'est des moments où on se rapproche, c'est des moments très intimes. La musique de chambre, c'est ça. C'est se rapprocher et sentir des choses de l'autre qu'on, même après 40 ans de vie commune, on n'a pas pu se dire tout ça. La musique de chambre, c'est se livrer à l'autre. La meilleure manière de faire de la musique de chambre, c'est à quatre mains. Parce qu'à quatre mains, on se touche. À quatre mains, c'est la seule configuration de musique de chambre où on se touche les bras, l'épaule. Et on est l'un avec l'autre. Enfin, on ne fait plus qu'un d'ailleurs, parce qu'un duo à quatre mains, c'est presque une seule personne. Et on est chacun une moitié de la personne. L'un qui est tourné vers la droite avec le dos vrillé et l'autre vers la gauche. Et c'est d'ailleurs très malaisé de jouer à quatre mains. Et on doit vraiment être en osmose pour donner une bonne interprétation. Et on peut se parler aussi sur scène, on peut chuchoter, on se sent. L'autre a intérêt à avoir mis du déodorant et avoir pris une douche avant le concert. Mais c'est vraiment ça. Il y a une promiscuité extraordinaire.
Les moments de partage, vous les avez avec des musiciens classiques, vous les avez également avec des musiciens de variété, de chansons françaises. Vous jouez avec Juliette, vous jouez avec Benabar. Vous dites « je ne suis pas l'interprète d'une seule musique ».
Je vous parlais, donc, quand on joue à deux pianos, d'avoir un pianiste qui ne nous ressemble pas. J'ai envie de dire que plus l'artiste est différent, plus il est éloigné de moi, par sa manière de s'exprimer, plus il m'apprend de choses. Et on peut apprendre beaucoup de choses en travaillant avec quelqu'un comme Juliette. Peut-être plus qu'avec un violoniste ou un violoncelliste. Vous voyez, si c'est un grand artiste, il vous apprend plein de choses et on peut. Mais je n'ai pas assez. C'était des expériences très rares. Parfois juste une chanson. Alors 3 minutes, c'est pas assez. Vous voyez, j'aimerais en faire plus, mais en même temps, ma vie ne me permet pas.
J'avais un ami, Dieu l'avait voulu. C'était la douceur unie à la grâce. chez un pharmacien de première classe. Il dulcifiait le calme tolu. Là, dans l'ombre, il sucrait les potions amères d'un doigt occulte et seul, loin des regards sévères. Son patron, qui savait aussi l'apprécier, l'avait surnommé le grand sucrier. Il avait des yeux, il en avait deux, mais ce n'étaient pas ceux de tout le monde. Ils étaient à lui comme sont à l'onde les vagues d'azur et les poissons bleus. Il avait un chapeau d'une forme très haute qu'il mettait avec la superbe redingote qu'on la lui avait fait cadeau avec l'étui. Il avait encore autre chose à lui. Un soir il me dit, le sucre a baissé, le patron renonce à mes bons services. Il attend, dit-il, des temps plus propices, quand la crise du sucre aura passé. Ensuite il prononça ces mots énigmatiques: le métier est foutu pour les diabétiques. Il m'embrassa puis il partit pour Châteauroux. J'avais un ami si tendre et si doux.
J'ai une grande admiration pour les chanteurs en général.
Lyrique,
populaire. Pour moi, c'est la même chose. Ce sont vraiment nos maîtres. À nous, pianistes, qui avons un instrument qui n'utilise pas le souffle, pas notre souffle, qui n'utilise pas un archet, donc avec un son qui tient. On a un son qui tient, quoi, 1-2 secondes, c'est pas beaucoup. Et malgré tout, avec cet instrument, cet amas de métal, de feutre, de bois, de plein de bois différents, d'ivoire de synthèse, de beaucoup de matériaux avec plein de petites pièces qu'on ne connaît pas. C'est un instrument qui nous est presque inconnu, hein. Les pianistes sont des gens qui travaillent face à un instrument qu'ils ne connaissent pas. C'est étrange quand même comme métier. Et bien avec cet instrument qui est peut-être celui qui est le plus éloigné de la voix humaine, c'est en même temps celui qui va l'imiter le mieux, ou qui tente, qui court après la voix humaine. Donc le pianiste, c'est quelqu'un, toute sa vie, qui va chercher à se rapprocher de la voix humaine.
D'où vous vient cet amour de la chanson française et de la voix, de ces voix de chanson française, de Barbara, dont vous avez évidemment tant parlé et que vous aimez tant? Ces amours de voix et de chanson française vous viennent de quand, Alexandre Tarot? Pas de votre enfance, donc, ce qui est assez rare.
Quelques disques, Charles Trenet, Cora Vauquer, et puis ensuite Barbara. À 17 ans, je donne un concert dans une série qui s'appelait « Des grands interprètes aux jeunes talents ». C'était le lundi à 18h. Alors moi, j'étais le jeune talent, et la grande interprète, c'était Christiane Dapierre. Et donc, je l'ai accompagnée, je jouais d'ailleurs déjà à l'époque du Chopin et du Ravel, je m'en souviens. Et puis, à la fin de mon concert, j'ai demandé timidement au Théâtre du Châtelet, j'aurais demandé, est-ce que vous pourriez pas avoir des places pour Barbara, parce que je l'écoutais dans mon lit avec mon petit Walkman. Je l'écoutais, c'est une femme qui me parlait. Barbara, elle parle aux adolescents. Elle les comprend et elle les soutient, elle les berce, elle les console. Et donc voilà, c'était ma consolatrice. Et je l'écoutais la nuit. J'avais des insomnies, beaucoup d'insomnies, adolescents. Toujours maintenant, mais je les découvrais, ces insomnies, à cet âge-là, vers 14-15 ans. Et puis donc, ce concert-là, je crois que j'avais 17 ans, en plein dans mes insomnies, en plein dans ces années de conservatoire difficiles, et je découvre Barbara. Donc, le Théâtre du Châtelet m'offre 2 places. Et je me retrouve à la dernière de Barbara, donc 1987, c'est son premier Châtelet. Là, dans une loge, sur la gauche de la salle, avec ma sœur. Et on découvre là, avant même que le rideau se lève, un public en furie. Un public qui crie, un public qui grouille, un public en feu. Je n'avais jamais vu ça, j'avais jamais été dans un concert de rock. Je connaissais que les publics silencieux. Alors, c'était déjà un choc. Puis le rideau s'est levé. Barbara est entrée, côté cour, et puis elle a eu ce petit mouvement de nuque vers la salle. C'est difficile d'en parler parce que c'était un choc, mais un choc fondateur. Ce quart de seconde-là, un mouvement de nuque. Comment expliquer qu'un mouvement de nuque peut décider de votre vie? Comment expliquer qu'un mouvement de nuque peut vous faire comprendre que là est votre vie, la scène, le rapport au public, la manière dont Barbara vivait la scène, c'est-à-dire donnait tout. Et donc, dans ce mouvement de nuque, j'ai compris tout ça. Après, il y a eu le spectacle, qui était phénoménal pour tous les gens qui ont vu Barbara sur scène. Ben, c'était une présence hors du commun. Ce costume de Mine Vergès. Et puis, ces musiciens dans un coin, dont Marcel Azola, qui avait accompagné Brel pendant des années. Des musiciens qui étaient dans un coin, qui étaient excellents, mais qu'on oubliait. Tant Barbara prenait tout l'espace de la scène. Encore quelque chose que j'ai appris par elle. Comment, quand on donne tout à la scène vous offre tout. Et Barbara, c'était ça. Sur scène, rien ne pouvait l'attaquer. Sur scène, en fait, rien ne peut nous arriver. C'était ça. Barbara, elle était sur un vaisseau, sur un plateau de scène. Elle était là et rien ne pouvait lui arriver. Dès qu'elle sortait de scène, c'était bien autre chose. Mais sur scène, elle était heureuse.
Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence. À Göttingen, bien sûr, nous nous avons la scène, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, et nous nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, et nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen, et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen, au fait que jamais ne reviennent. Le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme, pour Göttingen, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme, pour Göttingen.
Émilie Minera, Les Grands Entretiens, France Musique.
Barbara avait aussi une chose très très forte, c'est d'arriver à faire tout un spectacle en étant défaillante. Défaillante, attention, c'était une grande artiste, elle avait une voix merveilleuse, mais, je veux dire, elle avait sa voix qui commençait à être abîmée en 1987. La voix s'abîme vers les années 80. Hein. Là, en 87, elle commence à être un peu rauque, et c'est ça qui était beau. Elle a joué de cette voix-là, elle a joué de ses failles. Et Barbara m'a fait comprendre que, si je n'arrivais pas à jouer tel tri, si j'arrivais pas à faire telle étude de Chopin ou truc de Prokofiev, c'était justement une chance et qu'il fallait tout mettre sur table. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce mouvement de nuque, j'exagère, à partir de ce spectacle, mais quand je suis rentré chez moi, je me suis mis au piano et j'ai commencé à travailler véritablement. Je pourrais dire que c'est vraiment le jour où j'ai commencé à travailler mon piano. Quand je vous disais aussi que j'étais paresseux enfant, je n'ai plus été paresseux à partir du moment où j'ai su travailler. Et c'est venu d'un spectacle de Barbara, ce n'est pas venu du conservatoire, ce n'est pas venu d'un récital de piano qui m'aurait transporté, il y en a beaucoup. Non, c'est venu d'une chanteuse de musical, une chanteuse de chansons.
Parler de création, Alexandre Tarot, mais la création est également au cœur de votre activité. D'ailleurs, vous-même, vouliez être compositeur.
C'est le métier auquel je me destinais. Je voulais être chef d'orchestre aussi, mais je n'avais pas le panache pour me retrouver devant un orchestre de 80 musiciens. C'est le piano qui m'a emmené vers une vie de pianiste soliste qui est très enrichissante. Et c'est aussi une vie de compositeur, parce que quand on joue, on crée beaucoup. Et la vie de compositeur, ben je l'ai mise à côté. Alors, il n'y a pas de manque, mais quand même, j'ai, à travers les créations et à travers toutes les commandes que j'ai faites à des compositeurs de mon époque, j'ai retrouvé le plaisir de créer. Ce n'est pas ma propre musique, mais c'est la musique de mes amis. Gérard Pesson, Hans Abrahamsen, le compositeur danois dont j'ai créé le concerto pour la main gauche, ouais, qui est un chef-d'œuvre et que je rejoue dans quelques semaines au Danemark, puis à Cleveland. Enfin, on a plein d'orchestres, Birmingham. C'est très rare qu'un concerto ait 8-9 orchestres comme ça sur 3-4 saisons, qu'il ait une vie. Ça fait plaisir. Et quand je fais des commandes à des compositeurs, on est ensemble dès les premières notes. Avec Hans Abrahamsen, il m'a demandé de lui jouer à la main gauche des choses pour qu'on voit ensemble ce qui sortait bien. Et en même temps, je lui disais, attention, pense aux autres pianistes, parce que moi, je suis là. Encore une fois, je suis un passeur. Il faut que les autres pianistes aient envie de reprendre l'œuvre. Donc, il faut que ça, et puis que ce ne soit pas trop difficile. Parce que sinon, ça ne va pas sonner. Avec une seule main, attention. Et puis, il y a des choses, des effets qu'on peut trouver. Ravel, elle nous a ouvert la voie, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avec la main gauche. Et... alors voilà, on a travaillé ensemble. Il y a eu Gérard Pesson, il y a eu Thierry Pécou, Oscar Strasnoy. Je crée son concerto au mois de juin au Canada.
Il n'y a pas de chapelle, on voit. Enfin, c'est, ça
non, mais au... des composés. Maurizio Kagel, oui, qui a vraiment été très important premiers. Pour moi, et qui m'a appris aussi beaucoup de choses parce que... et il m'a fait ouvrir la carapace, là. Il m'a fait crier au piano. Il m'a fait faire des choses. Il m'a fait faire du théâtre musical. C'était fou. Alors ces expériences-là sont très fortes. Et j'ai envie de dire qu'après, je joue mieux Chopin ou Beethoven. Et puis aussi avoir pu défendre la musique d'un homme vivant ou d'une femme. Malheureusement, je n'ai pas encore créé d'œuvre de femme, mais un compositeur vivant, c'est la création, le moment de la création, rentrer sur scène, c'est déjà un acte fabuleux, mais rentrer sur scène pour jouer pour la première fois une œuvre, avec la responsabilité que vous avez sur les épaules, et le compositeur là dans la salle, qui a peur, très peur, et cet orchestre, ou si vous êtes seul, tout seul, mais enfin, il y a toute une équipe derrière là, il y a une fragilité. Et surtout une envie d'en démordre, une envie de dire voilà, ça c'est une œuvre qui doit traverser les siècles. C'est quelque chose de très fort.
Et quel luxe de travailler avec un compositeur vivant, hein, c'est ce qu'on disait aussi.
Ouais, c'est... ouais. Gérard Pesson, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est la science du détail. Comme l'avait Maurice Ravel, d'ailleurs on les met souvent ensemble, ces deux compositeurs. Je pense que s'ils s'étaient rencontrés, à travers le temps, s'ils avaient pu se rencontrer tous les deux, ils auraient eu beaucoup de choses à se dire. Et Gérard Pesson, on va travailler un silence pendant 30 minutes. On va en parler pendant 30 minutes. La consistance du silence. Un triple piano, non pas quatre pianos, trois pianos. Pas deux pianos, trois pianos. Et on va peser, sous-peser la matière sonore pendant des heures. Et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Toutes ces notes qui vont tenir comme ça, eh ben elles sont très importantes dans l'équilibre, en fait. C'est-à-dire que ces notes-là, même quand tu joues pas, il y a une espèce de présence du piano. Voilà, il y a une présence du piano qui va... va remettre l'orchestre dans un certain lointain, tu vois. Voilà. Alors là, c'est bien comme tu l'as fait. Il faut vraiment le timbrer, parce que là, il y a du monde derrière. Il y a vraiment du monde. Du monde au balcon.
Vous enregistrez en ce moment ? Vous avez enregistré
disque, oui, j'enregistre. Je suis déjà dans mon prochain disque. Vous voyez, là,
alors que le disque Rachmaninoff vient de sortir.
Mais j'aime
vous
ça.
Vous êtes déjà sur un autre disque.
J'aime ça. J'aime ça parce que ça ne s'arrête pas. Si vous voulez, je vous disais au tout début de notre premier entretien, mon grand-père m'avait dit qu'il s'arrêterait de vivre le jour où il s'arrêterait de jouer du violon. Au fond, c'est ça. Je pourrais arrêter le piano, mais quand j'arrêterai d'enregistrer, d'être sur scène, au fond, donc quand j'arrêterai mon métier, je vois pas ce que j'aurai. Enfin, ma vie sera tout à fait anodine.
C'est avec ces bruits de pédales, les pédales du piano, dans l'œuvre de Gérard Pesson, que s'achève ce grand entretien avec Alexandre Tarot. Grand entretien à réécouter en intégralité sur francemusique.fr. Et Alexandre Tarot, vous pouvez le retrouver les week-ends du 26 et 27 novembre pour un week-end spécial Rachmaninoff à la Philharmonie à Paris. Merci à l'équipe du jour, Gilles Blanchard, Cédric Chatelus, Céline Tranouvel et Georges Thau.
À réécouter sur francemusique.fr.